Les 25, 26, 27 et 28 avril 2024, le quatuor baroque Les Capsberg Girls se produisait dans quatre communes des Hautes-Alpes à l'initiative de l'espace culturel de Chaillol. L'ensemble présentait son spectacle « Vous avez dit brunette », un répertoire de chansons très apprécié au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Le jeudi 25 avril, nous avons rencontré Alban Imps, luthiste, théorbiste et fondatrice du quatuor dans le cadre d'une action culturelle donnée au CCAS de la Bâtie-Neuve. Le lendemain, nous avons rencontré les trois autres membres du groupe, Axel Werner, mezzo-soprano, Garance Boiseau, joueuse de viol de gambe, et Gabrielle Varbétian, soprano. Après un retour sur le concert et l'action culturelle du jeudi, nous nous sommes entretenus sur la place des femmes dans la musique du XVIIe siècle, en regard avec celle des femmes dans les ensembles de musiques anciennes et classiques d'aujourd'hui. Vous avez dit brunettes, mais au juste, que sont les brunettes? Réponse avec les Capsberg Girls.
Alors bonjour, je m'appelle Alban Imps et je suis donc luthiste et théorbiste à l'origine de la création de l'ensemble Les Capsberg Girls, qui est donc un quatuor vocal et instrumental composé que de femmes. C'est pour ça qu'on s'appelle donc Les Capsberg Girls, filles en anglais, qui est né en 2015 lorsque nous étions encore étudiantes et qui s'est au départ intéressé à un compositeur un peu particulier mais très connu pour mon instrument qui est le théorbe et le luth, c'est Capsberger, un compositeur italien, et c'est de là que le nom Capsberg Girls de l'ensemble est né.
Et pourquoi s'être intéressée à ce compositeur en particulier?
Alors pour moi, parce que on ne peut pas être luthiste ou théorbiste sans avoir joué les œuvres de Capsberger, sinon. Et puis aussi parce qu'il n'a pas composé que des œuvres instrumentales pour mon instrument, il a aussi composé ce qu'on appelle des villanelles, qui sont en fait des chansons à caractère populaire, qui traitent de sujets assez légers, couplets-refrains, qui se chantaient un peu dans toutes les couches de la société. Donc il a composé ça, il a réuni ses chansons dans des livres, et ça nous a donné l'occasion de nous retrouver avec différents instruments, avec les chanteurs, et pas que avec le luth justement.
Et là aujourd'hui vous êtes dans les Hautes-Alpes pour 4 dates avec l'espace culturel de Chaillol, donc vous allez interpréter un récital qui s'appelle « Vous avez dit brunette ». Donc justement ces brunettes que vous interprétez, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça s'appelle comme ça?
Alors les brunettes c'est tout un répertoire de chansons qui a été regroupé, parce que c'est des chansons qui existent depuis la Renaissance, mais qui a été regroupé au début du XVIIIe siècle par un éditeur qui s'appelait Ballard et qui était l'éditeur imprimeur de Louis XIV. Ce sont toutes des chansons assez légères qui ont pour sujet principal les bergers et les bergères. Donc c'est très champêtre, ça parle d'amour évidemment, dans 98,5% des cas. Et pourquoi ça s'appelle brunette? Parce qu'elles n'avaient pas du tout ce nom-là, c'était juste des chansons qu'on chantait comme ça, et c'était pas un répertoire propre, mais quand Ballard les a réunies, eh bien il a juste pris le refrain de la première chanson qu'il a imprimée dans son livre, qui dit « Ah, petite brunette, ah, tu me fais mourir !» Et il a décidé d'appeler toutes ses chansons des brunettes. Voilà.
Toutes les brunettes existantes sont dans ce recueil.
Alors, c'est plusieurs recueils. C'est, de sa part, il y en a 4. C'est 4 tomes qui ont été édités à partir de 1703, 1704, 1711. Non, c'est 3 tomes pour lui. Après, il y a ses fils qui ont repris et ça s'est répandu. Il y a plusieurs éditeurs qui ont pris la relève. Et c'est devenu vraiment un répertoire qu'on chantait et surtout un répertoire pédagogique pour apprendre à jouer de différents instruments. On s'en servait pour apprendre à chanter, mais aussi pour apprendre à jouer de la flûte traversière, enfin du traverso à l'époque, du clavecin, de la viole de gambe, parce que c'est un répertoire assez facile dans le sens où les mélodies se retirent facilement, donc c'est très pédagogique et didactique pour apprendre à jouer d'un instrument.
Et avec les Capsberg Girls, avez-vous déjà essayé de composer des nouvelles brunettes?
Alors, recomposer, pas tout à fait, mais recomposer en quelque sorte. Par exemple, sur certaines chansons, on a complété l'harmonie qui était inexistante. Donc on a inventé notre propre harmonie. Sur d'autres, on a composé, mais ça, normalement, on n'est pas censé le dire, créé un couplet qui n'existait pas, qui se mélange à d'autres déjà existants. Et sur d'autres, on a même carrément rajouté de la percussion corporelle. Enfin voilà, des choses... Donc oui, c'est un répertoire qui se prête vraiment au jeu et à vraiment réinventer. On est sur une base assez simple, finalement. Très très belle, hein, mais assez simple, qui donne vraiment envie de faire sa propre sauce avec tout ça.
Est-ce que c'est une manière aussi de réadapter ce répertoire pour un public contemporain?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est des chansons qui doivent parler à l'homme d'aujourd'hui autant qu'à l'homme du XVIIe, XVIIIe siècle, en fait. Les sujets sont... Bon, les bergers et bergères, il y en a un petit peu moins, mais par contre, l'amour, on est toujours... on est toujours concernés. Et nous, on fait cette musique-là, on est en 2024, et on a besoin de se sentir proche de cette musique-là, donc c'est notre manière à nous de se la réapproprier et de pouvoir mieux la partager aussi.
Donc au-delà du rôle de musicienne, vous avez presque un rôle d'historienne et de transmetteuse aussi d'une tradition musicale.
Oh, j'irai pas jusque là, mais c'est vrai qu'il y a un rôle de transmission qui est très fort dans les musiques anciennes, c'est absolument certain. On peut pas non plus faire cette musique sans avoir aucune connaissance musicologique de la façon dont on s'imagine et dont on sait que plus ou moins elle pouvait être interprétée, parce qu'évidemment l'essence de cette musique respire de ça, mais on trouve quand même des passerelles pour la rendre aussi actuelle, et ça c'est vraiment c'est l'histoire de toute la musique en général, pas que la musique ancienne, mais de continuer à la partager avec les interprètes et les publics d'aujourd'hui.
Alors bonjour à toutes les trois, donc vous êtes trois membres du groupe Capsberg Girls qui se produit ce week-end dans les Hautes-Alpes pour quatre dates. Alors je vais vous laisser les unes et les autres vous présenter et présenter ce que vous faites dans les Capsberg Girls.
Alors Axel, moi je suis chanteuse et je suis mezzo-soprano et qu'est-ce que je fais? Oui du coup je chante.
Moi c'est Garance Boiseau et je joue de la viole de gambe dans l'ensemble.
Moi, je suis Gabrielle Varbetian, je suis soprano et je chante aussi dans l'ensemble.
Hier, avec les Capsbergel, vous avez donné un premier concert à Saint-Laurent-du-Croix. Et l'après-midi, vous étiez à la Batineuf pour une action culturelle. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur cette action et ce concert?
Oui, l'action culturelle, c'était avec un groupe de personnes âgées qui vivent dans la commune. Et ça consistait en un échange autour de la musique baroque. Voilà, on leur a présenté l'ensemble, les instruments. Voilà, on leur a présenté notre répertoire. Puis après le concert, première date du concert. Vous avez dit brunette. Et voilà.
Ça s'est très bien passé. Il y avait pas mal de monde, donc ça c'était chouette. Et il y avait deux personnes qui étaient présentes à la médiation, qui étaient là aussi le soir. Et donc ça c'est chouette parce que ça fait pour eux comme pour nous, ça fait une espèce de continuité. Et puis du coup, les choses dont on leur a parlé dans l'après-midi, ils ont un autre aperçu le soir. Et donc pour ça, c'était chouette. Et ils étaient très forts, on doit dire. On leur a fait faire un blind test baroque et ils étaient très très forts.
Il y avait à peu près tous les âges. C'est très agréable pour nous. Je sais que de par le nom du groupe aussi, on a tendance à attirer des publics divers et variés. Notamment des gens qui n'ont jamais vu de musique baroque ou qui ne sont jamais allés à un concert. On a un souvenir très fort. C'était un jardinier vers Vézelay qui était venu parce que justement le nom l'avait fait marrer. Et c'était la première fois qu'il voyait un concert de musique de sa vie. Et il avait osé rentrer dans une église. Enfin, c'est pas si évident que ça, en fait, de rentrer dans du patrimoine, en fait. Et rentrer dans des églises, quand t'es pas habitué et quand t'es pas croyant, c'est pas une chose simple. Donc en tout cas, nous, avec le groupe, on essaye de rendre ça simple, justement, pour tout le monde, accessible, de valoriser aussi notre patrimoine d'une certaine manière.
Parce que justement, aujourd'hui, les musiques baroques ou les musiques anciennes, elles ont encore une image un peu hermétique auprès des publics ou ça est en train de changer un peu?
Ça dépend ce qu'on appelle musique ancienne ou musique classique. C'est vrai qu'on met à peu près tout dans le même paquet. En fait, musique classique, ça serait à partir de 1750 environ. Et musique dite ancienne, c'est tout le paquet avant. Mais c'est hyper large parce que ça va du 9e siècle à la fin du 18e. Mais c'est vrai que ça souffre un peu de cette image-là hermétique, un peu, on va dire, guindée. Poussiéreuse ou nous l'idée c'est pas de dépoussiérer, c'est plutôt de dire les gens qui écoutaient la musique à cette époque là c'était des gens comme vous et moi, ils avaient pas la radio, c'était un peu la musique pop aussi de l'époque. Il y a des airs qui étaient entraînants, il y a des airs où on allait pleurer, c'est un peu comme nous quand on écoute la radio dans notre chambre en pleurant toutes les larmes de son corps parce que vous arrivez à un truc tragique. En fait c'est les mêmes gens et on a tendance un peu à oublier que c'est les mêmes personnes. C'est juste, effectivement, l'époque est différente. Donc nous, on a décidé de prendre cette musique comme elle était, avec les textes, en l'interprétant, on va dire, avec notre sensibilité artistique, mais aussi avec ce que nous évoque le texte. On travaille beaucoup sur la précision, mais le ressenti général, c'est un ressenti à quatre. Pour nous, elle n'est pas ancienne, cette musique, en fait.
Il y a une des brunettes qu'on chante qui a été interprétée par Nana Mouskouri. Et c'est marrant, en fait, de voir qu'il y en a quand même certaines qui ont passé la postérité et qui ont quand même été utilisées par des chanteurs récents. Donc voilà, c'est un répertoire, finalement, qui fonctionne. Puis, comme on explique au concert aussi, c'est des thèmes, en l'occurrence, dans ce programme-là, qui sont tout à fait d'actualité aussi, quoi.
On est sur des chansons, particulièrement chansons d'amour, en règle générale.
c'est pas que des chansons d'amour. En fait, les brunettes, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça traite de faits de société. Et pas toujours de faits très heureux non plus. Enfin, ça parle de viol, quand même. Alors oui, le berger est galant, mais pas toujours. Il y a certains textes, c'est quoi? C'est « Non, non, je n'irai plus au bois seulette, sans ma houlette et sans mon chien. » Parce que le texte dit « Un matin, je dormais sur l'herbe tendre, un berger vint me surprendre, je n'avais rien pour me défendre, il ne s'en fallut rien, fuyons, mais je sens quand même que mon cœur s'intéresse. » Et après, il dit le texte « Lorsqu'un amant qui sait l'art de nous plaire, nous attaque en téméraire, on a beau faire la sévère, hélas, hélas, que l'on court de danger. » L'air est hyper léger et en fait, le texte est ouf. Mais en fait, c'est aussi important de chanter ces textes-là. Et sous couvert de mignonnerie, on traite des faits qui étaient déjà présents à l'époque. Hein. Mais ce qui est intéressant aussi dans les brunettes, c'est que c'est pas que le berger court après la bergère, c'est aussi la bergère qui vient draguer le berger. Donc ça donne des fois lieu à des petits textes avec des quiproquos ou avec des bergères qui ont des caractères bien trempés. Je pense à Vérité Saveur Margoton, où la bergère, elle en a rien à battre du berger. Et lui, il court après, il lui dit quand même, je comprends pas, je suis vraiment le plus beau, toi, je te croyais douce comme un mouton, mais en fait, pas du tout. Et elle se moque de lui en disant, mais quoi, Simon, c'est sur quel ton qu'il faut le dire, en fait, tout ça. Et à la fin, elle lui dit, bah, en fait, je t'entends pas. Que dites-vous, j'entends peu ce jargon. Bah, en gros, parle, cause toujours. Tu m'intéresses. Donc, c'est des personnages qui sont vraiment intéressants.
En vérité sévère, Margoton, vous le prenez sur un drôle de ton. Faut-il ainsi dans la jeune saison, avec fierté de l'amour se défendre? Quoi, Simon, sur quel ton, comment donc? C'est le ton qu'il faut prendre. Quoi, Simon, sur quel ton, comment donc? C'est le ton qu'il faut prendre. Quand de mon cœur je vous offre le don, vous le prenez sur un drôle de ton. Je vous croyais douce comme un mouton, mais pour le coup, je ne puis vous comprendre. Quoi, Simon, sur quel ton, comment donc? C'est le ton qu'il faut prendre. Quoi, Simon, sur quel ton, comment donc? C'est le ton qu'il faut prendre. Je vous adore, elle le dit tout de bon. Vous le prenez sur un drôle de ton. Votre beauté de ma flamme répond. Vous refusez des amants le plus tendre. Quoi, Simon, sur quel ton, comment donc? C'est le ton qu'il faut prendre. Quoi, Simon, sur quel ton, comment donc? C'est le ton qu'il faut prendre. À votre tour, en vérité, Simon, vous le prenez sur un drôle de ton. Que dites-vous, j'entends plus ce jargon. Qui vous croirait se laisserait se prendre? Margoton, sur quel ton, comment donc? C'est le ton qu'il faut prendre. Margoton, sur quel ton, comment donc? C'est le ton qu'il faut prendre.
Je vais y venir un petit peu à cette question des femmes dans la musique, dans les musiques anciennes, comme on disait, qui sont assez larges. Justement, vous êtes un groupe entièrement féminin. Je me posais la question de cette représentativité aujourd'hui des femmes dans le milieu des musiques, musique classique et musiques anciennes. Où en est-on ?
Je dirais que dans le monde des instrumentistes, en tout cas en musique ancienne, actuellement, vous prenez un orchestre baroque, par exemple, il y a quand même une majorité de femmes. Moi, je suis instrumentiste, donc en tout cas, c'est ça que je note. Tout ce qui est chef, personne qui dirige les ensembles, c'est quand même en majorité des hommes. Mais il y a quand même de plus en plus de femmes qui apparaissent et qu'il y a la hiérarchie des postes au sein même de l'orchestre. Mais si on regarde le nombre général, je pense qu'en ce moment, il y a plus de femmes. Mais après, au poste important, c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'hommes.
Il y a plus d'hommes. Hein.
Et dans les chefs d'orchestre, surtout, c'est sûr que c'est encore, encore des hommes. Mais bon, voilà, on est dans ce monde-là et ça se ressent aussi chez les interprètes. Mmh. Mais après, je pense que vous, en tant que chanteuse, vous avez peut-être aussi d'autres visions des choses et d'autres ressentis peut-être par rapport à ça.
Bah, moi, j'allais surtout rebondir sur les choix de mettre en avant des compositrices. Il y a pas mal d'ensembles qui essayent de vraiment mettre en avant le travail qui a été vraiment mis de côté par les femmes compositrices à toutes les époques. Voilà, il y a que dans la période contemporaine où on les a un peu plus vues, enfin où on les voit un peu plus puisqu'elles sont toujours présentes, il y a vraiment une volonté de dire mais regardez, les femmes aussi, elles ont écrit des trucs qui sont plutôt intéressants et qui valent le coup d'oreille.
Et ça, on va y revenir juste après, on va parler justement de votre prochain programme où il y aura aussi des compositrices remises à l'honneur. Hier, tu me parlais également, Axel, du fait que les femmes chanteuses, notamment, à partir d'un certain âge, elles ne peuvent plus aller sur scène comme elles l'auraient fait à 25 ou 30 ans.
Ce qui est certain, c'est que dans le monde de la musique, il y a une culture du jeunisme qui est belle, mais en même temps, la voix, en tout cas, elle met du temps à mûrir. Et physiologiquement, on va dire, on est en pleine capacité de sa voix vers 35 ans, 40 ans, on va dire. Et c'est bête parce que c'est le moment où beaucoup de femmes ne sont plus embauchées.
En fait, on te fait comprendre que bah, t'es trop vieille pour le milieu et qu'il y a un millier de jeunes femmes super jolies, super brillantes, brillantissimes, qui sont derrière toi. Et donc, en fait, qui te poussent gentiment vers la sortie. Voilà, ça, c'est ce qu'on te fait comprendre en tant que chef, en tout cas. Mais la réalité, c'est que on peut aussi se créer des endroits où l'âge n'a plus d'importance. Ça, on n'en a pas parlé hier, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a envie de continuer de chanter, en fait. Je veux dire, il n'y a personne pour nous dire qu'à 35 ans, on est périmé, en fait. Donc, on a de plus en plus tendance, en tout cas les femmes, je veux dire en manière générale, hein, à construire nos propres projets. Tu vois, les Capsberg Girls, c'était aussi l'occasion d'être libre. Libre musicalement, libre de se laisser vivre aussi. Il n'y a pas d'histoire d'âge entre nous. Et puis le jour où on sentira qu'on en a marre, ben c'est parce qu'on en aura marre. Ça se trouve, on va continuer jusqu'à très très tard. Hein. Mais disons que dans les gros ensembles, tu ne vois pas de femmes âgées.
Et comment on explique justement ce jeunisme ?
Il y a plusieurs choses. La première chose, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on valorise vraiment la beauté esthétique, la jeunesse. On est dans un monde d'images. Voilà, où effectivement un clip, un film va mieux représenter un ensemble de musique. On est abreuvé aussi, nous, au quotidien d'images avec les réseaux sociaux, tout ça. Et c'est vrai qu'on va plus regarder une femme qui est jeune plutôt qu'une femme qui est âgée. Et c'est aussi beaucoup d'hommes cinquantenaires, voilà, l'homme, le fameux blanc cisgenre, qui sont à la tête des institutions. Et on reste dans cette veine de une jeune femme fine. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de grossophobie hein, dans ce milieu. Une jeune femme fine qui correspond à des critères esthétiques habituels qu'on voit dans les magazines, en fait.
Je trouve que c'est aussi une façon de sélectionner. Parce que mine de rien, il y a quand même de plus en plus... Enfin, quand on est dans le milieu, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de musiciennes et de musiciens qui s'intéressent à ce répertoire. Je trouve que c'est une façon de sélectionner, en fait, de mettre des limites d'âge, par exemple, dans les concours. On dit que c'est même parfois différencié en fonction des... Je parle pour la voix. C'est différencié en fonction des tessitures. Les ténors, ça peut aller jusqu'à 30, voire 32, 35. Par contre, les sopranos, c'est souvent 26, 27. Il y a beaucoup de sopranos, donc c'est aussi une façon de sélectionner, de dire, bon, bah, celles qui sont plus âgées, c'est trop tard.
Justement, à l'époque où on chantait des brunettes, par exemple, est-ce que les chanteuses, vous aviez des chanteuses plus âgées aussi qui étaient mises sur le devant de la scène ? Vous en connaissez quelques-unes ?
Non, il y a toujours eu cette culture du jeune. C'est ancré depuis tellement longtemps. Le public de l'opéra, en tout cas pour aujourd'hui, hein, avant c'est un peu moins vrai, mais est un public assez âgé. Ben, il n'a pas envie de voir des gens qui lui ressemblent, il a envie de rêver. C'est pour ça qu'on préfère avoir des jeunes. Après, ce qui est embêtant, c'est que les hommes, on peut voir des vieux hommes, c'est pas un souci. Il y a la figure du patriarche. En fait, la vieillesse aussi a un vrai rôle est plutôt une bonne chose du côté masculin. On va la valoriser, on voit bien les rôles d'opéra. Quand t'es une vieille femme, ben, tu vas jouer quoi ? Tu vas jouer la mère, tu vas jouer la mégère, tu vas jouer la sorcière. Quand t'es une jeune première, tu vas jouer la princesse. Puis en plus, ça se finit toujours mal pour toi. Enfin, si on regarde sur tous les opéras, elles meurent toutes. Ou même dans des opéras plus contemporains, c'est des prostituées. Je pense à Loulou de Berg, par exemple. Enfin, la figure de la femme, elle est pas jolie, hein. Mais on apprécie, parce que bah, déjà, c'est super bien écrit. Enfin, c'est super ambivalent, en fait. C'est pour ça, je pense, que les choses bougent pas. C'est le patriarcat dans toute sa splendeur.
Et on le voit même dans les milieux discographiques, sur les pochettes des albums, en classique ou en musique ancienne. Toujours des femmes mises en avant, assez jeunes, toujours en robe de soirée.
Quand tu as des pochettes de disques avec des femmes plus âgées, parce qu'il y a des chanteuses quand même qui continuent une carrière, et ben souvent tu regarderas, elles ont la main sous le menton. C'est pour cacher un peu l'affaissement du menton. Ou les deux mains sur les bajoues, parce que comme ça tu vois pas. Et elles tirent un peu. Il y a plein de tips. Hein. Tu viens creuser les joues en mordant à l'intérieur de tes joues. Voilà. Personne au-dessus de 40 ans, elle a toujours une main sous le menton comme ça.
Fermo bello, frettolosa pastorella. Fermo bello.
On va revenir sur votre prochain programme où justement vous allez mettre à l'honneur des compositrices italiennes. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment s'est fait le choix de ces compositrices? Pourquoi les avez-vous choisies?
Le programme qu'on défend un peu plus là en ce moment, entre guillemets, c'est un programme qu'on a appelé les données. Et donc, oui, alors on cuisine en même temps, du coup, il y a un arrière-son. Et donc, c'est un programme qu'on a bâti uniquement autour de pièces composées par des femmes qui ont eu des parcours très différents les unes des autres. Mais qui, voilà, le point commun, c'est qu'elles sont des femmes et qu'elles ont écrit globalement quand même vraiment de la belle musique. Il y en avait certaines qui étaient en couvent, mais la plupart étaient très douées. Et quand on retrouve des textes, on réalise qu'elles étaient très jeunes quand elles ont composé. Après, c'était aussi beaucoup des femmes qui, de par leur situation familiale, sociale, tout ça, avaient quand même accès, avaient reçu un enseignement quand même de qualité, etc. Elles ont des parcours assez incroyables. Et donc, on a construit ce programme autour de leurs œuvres. On a cherché, on a essayé, on a lu beaucoup de pièces. Et ça, c'est comme ça un peu qu'on monte beaucoup de nos programmes. Les Brunettes, c'était un peu pareil. Il y a une grande phase de déchiffrage et de sélection des pièces où on lit des pièces, où on fait une espèce de classement. Et après, on resserre et on affine et on montre un programme en fonction de ça. Il y a aussi des choses qu'on va mettre dans un CD puis qu'après on va pas forcément intégrer à nos programmes de concert, soit pour des questions d'instrumentation où on trimballe pas autant d'instruments, ou juste parce que finalement dans le cadre du concert ça marche moins bien, mais ça avait de la valeur pour nous de le mettre dans un CD. Donc c'est un programme qu'on a enregistré en janvier 2023, donc l'année dernière, et qui va sortir en début d'année 2025, et donc on va jouer beaucoup cet été. Et donc il y a des œuvres de Barbara Strozzi, d'Antonia Bembo, plusieurs compositrices comme ça. Ça a été un travail assez différent parce que c'est des œuvres qui sont beaucoup plus longues et qui vocalement, notamment pour les chanteuses, demandent une autre forme de vocalité. Les Brunettes, les mélodies se reprennent plusieurs fois, il y a juste les paroles qui chantent et elles placent leur voix d'une certaine manière. Là, c'est des œuvres qui durent beaucoup plus longtemps et qui des fois demandent un peu plus, comment dire, je peux pas dire d'implication vocale, je suis en train de parler de la voix alors que je suis instrumentiste, je ne sais pas très bien ce que je fais, mais bon, globalement, d'après ce que j'ai compris, c'est une autre vocalité qui est peut-être un peu plus exigeante que dans les qu'on a fait avant. L'exigence de nos programmes précédents était dans d'autres choses, était dans l'ensemble, dans le fait de raconter des histoires, voilà. Là, il y a certaines pièces qu'on a enregistrées où le texte est peut-être moins au centre, mais en même temps, il y a beaucoup de réflexions quand même derrière. L'exception du programme, c'est qu'on a quand même gardé quelques pièces uniquement instrumentales, donc avec la harpe, les cordes pincées et la viole. Et là, on est revenu à notre premier amour, qui est donc Kapsberger, Hieronymo Kapsberger, qui est donc le compositeur autour duquel le groupe s'est formé, on va dire.
Et la harpe, c'était un instrument qui était fréquemment utilisé justement par tout ces compositrices.
Il y avait tout à fait. C'était en fait, il y avait même une à l'époque, elles étaient très très fortes. En fait, elles jouaient des instruments et elles chantaient en même temps. Donc elles s'auto-accompagnaient. Et donc il y a beaucoup de harpistes qui étaient chanteurs, des violistes qui étaient chanteuses, harpistes chanteuses. Ouais, elles jouaient aussi du clavecin. Donc voilà, ça fait complètement partie des instruments qui étaient absolument en vogue à l'époque et notamment joués par des femmes.
Il y avait des instruments qui, justement, n'étaient pas autorisés pour les femmes, des instruments qui étaient mal vus.
Moi, je crois que la viole, c'était pas l'instrument le plus... Moi, j'ai reçu des doubles informations, j'ai lu des choses un peu paradoxales. Je sais que du fait de la position, c'était pas un instrument forcément qui était recommandé, on va dire, pour les femmes, parce que voilà, on tient l'instrument entre les jambes, tout ça, donc bon. Et en même temps, il y a des représentations, il y a des tableaux où on voit des femmes, pas mal. Je sais que, notamment, le compositeur Monsieur de Sainte-Colombe jouait avec ses filles, donc je pense que ça faisait quand même partie... Enfin, les femmes en faisaient un peu, mais peut-être que c'était pas elles qui jouaient à la cour. Voilà, c'était peut-être plus dans une intimité familiale, en tout cas, que ça se faisait. Ça faisait partie de leur éducation, mais je pense qu'il y en avait très peu qui étaient professionnels. Ça, c'est sûr, par exemple. À l'orchestre, les 24 violons du roi, tout ça, je pense qu'il n'y avait pas de femmes dans l'orchestre.
Mais on peut parler un peu, si tu veux, de la situation de la femme, en tout cas musicienne, au XVIIe siècle. Ça peut être intéressant... Il y a plusieurs cas de figure. Il y avait comment ça s'appelle, tu sais, celle qui jouait Luzzasco, Luzzaschi. Je crois que c'était le concert des femmes, le concert des donne en Italie, où elle jouait dans des salons privés. Une fois que les partitions étaient jouées dans le cadre privé, elle n'avait plus le droit de les rejouer. En fait, elle s'était mise sous clé dans un coffre. Et après, lors d'une prochaine réception, c'était un peu un bijou, un joyau, voilà. Mais elles étaient incroyables, elles étaient trois, elles jouaient harpe, viol de gambe, et je sais plus quel instrument, et elles chantaient en même temps, effectivement. Et c'est de la musique de dingue, vraiment incroyable. Ça a été enregistré d'ailleurs il y a pas longtemps par des copines, l'ensemble Les Néréides, qui l'ont sorti, et c'est une musique que je recommande vraiment... Concerto delle donne, je crois. Après, pour la musique plus religieuse, jusqu'à très tardivement, à l'église, on ne voyait pas les femmes. C'est-à-dire qu'elles chantaient derrière des grilles. On voit à Château-Thierry, il y a un reste d'ailleurs d'église où on peut voir cette fameuse grille où était chantée la musique religieuse. Il existe de la musique grégorienne, donc ça c'est plus ancien pour les femmes, mais c'est pareil, en fait, la plupart des gens pensent que le grégorien, c'était masculin. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui le chantaient, c'est juste que c'était dans la sphère privé, dans la sphère du couvent, et jamais montré. En fait, il y a aussi toute une image et toute une histoire de la voix de la femme dans la musique, notamment la musique religieuse, où c'est un peu démoniaque d'entendre une femme chanter, vraiment. Je prends pour exemple des missionnaires, je pense que c'était à l'époque baroque, qui sont allés voir les Inuits, et qui ont interdit aux femmes Inuites de chanter les chants de gorge qu'elles faisaient pour célébrer le retour des chasseurs. Et c'est vrai que c'est des chants qui sont extrêmement gutturaux, qui peuvent être dérangeants, effectivement, en fait, quand on ne connaît pas cette musique, et ça a été interdit. On interdit aux femmes de se montrer, et la religion catholique, en tout cas, a fait beaucoup de mal aux femmes de ce côté-là, en les cachant, en empêchant de chanter. Et je vois encore, quand je travaillais à Notre-Dame de Paris notamment, c'est compliqué de mélanger filles et garçons dans le cadre du grégorien. Et d'ailleurs, la plupart des gens, c'était marrant, venaient de nous voir après en nous disant « Mais vous êtes des bonnes sœurs de la cathédrale, on ne pouvait pas être chantre en étant une femme. » Alors que si, en fait, c'était tout à fait autorisé à la maîtrise, mais disons que voilà, dans l'imaginaire collectif, ça ne se faisait pas trop. Et... On était souvent envoyés à l'époque baroque dans des couvents, quand on était une fille de bonne famille, pour recevoir une éducation religieuse, une éducation en musique pour devenir lettrée. La musique, c'était autorisée dans le cadre du couvent. Je vois par exemple Vivaldi qui a beaucoup enseigné à Venise. Mais par contre, une fois qu'on était mariés, c'était terminé. La musique, c'était pour briller en société. Impossible d'en faire un métier. C'était pas autorisé du tout. Les compositrices dont on a les sources aujourd'hui, c'est parce que soit, par exemple, pour Leonarda, elle était dans un couvent jusqu'à la fin de sa vie, elle était tranquille. Et sa musique a pu sortir comme ça et être imprimée. Soit c'était par les frères, donc frères pas au sens religieux, mais par les frères des jeunes filles qui étaient en couvent, qui sortaient la musique et qui allaient en douce l'amener se faire imprimer. Donc c'est souvent sorti sous le nom des frères et non de la jeune fille qui avait composé aussi pour que ça puisse être diffusé. Mais voilà, c'était quand même assez limité. Et d'ailleurs, ces jeunes filles, donc on en revient un peu à notre projet des compositrices, ces jeunes filles qu'on a décidé de jouer, on n'a pas décidé de toutes les jouer, parce que aussi la qualité musicale était plutôt faible pour certaines, parce que même si elles recevaient une éducation musicale, on sent que c'est pas une éducation musicale assez conséquente pour pouvoir proposer une musique cohérente, on va dire. Donc c'est pas parce que c'est des femmes qu'il faut absolument les jouer. Et je pense qu'il y a encore 1000 pépites cachées dans les bibliothèques qui sont encore là, qui attendent que ça, d'être jouées. Mais tout n'est pas beau et tout n'est pas bon. C'est plutôt c'est beau et c'est pas joué parce que c'était une femme.
Tu parlais des chanteuses et des instrumentistes également étaient cachés du public.
À cette époque-là, je sais pas, parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment ce truc de enfin cette sensation qu'il y avait peu de musiciennes professionnelles, et donc c'est vrai que je sais pas comment ça se passait, tout ce qui était musique de chambre, musique à la cour. Je pense qu'il y avait des femmes qui jouaient, mais je pense que c'était que des amatrices, quoi. Dans ce prolongement de leur éducation, elles étaient amenées à se produire à certains moments, mais entre amis, quoi, finalement. Mais sur la scène professionnelle, je pense vraiment que les instrumentistes femmes, il y en avait très peu.
Moi, je peux parler des chanteuses aussi, parce que c'est le sujet que je connais le mieux, mais tu as l'image de la courtisane. C'est la fille facile. Je pense que pour les instrumentistes aussi, parce qu'il y avait beaucoup de comédiennes aussi, ça me revient, qui étaient instrumentistes. C'est les filles faciles, c'est les filles de mauvaise vie. Voilà, la voix, c'est sensuel, ça crée de l'émotion. Ben, tout de suite, il y a une image de fille facile. Les chanteuses étaient des courtisanes à l'époque baroque. Tu voulais vivre de ton art, je pense, tu devais t'affranchir à l'époque de toutes les bonnes manières, entre guillemets, et accepter ce statut de femme légère, quoi.
Tu parlais aussi des femmes qui imprimaient leurs partitions un peu de manière clandestine tout à l'heure. Est-ce que justement, il y a eu beaucoup de cas dans l'histoire, pour ce qui nous est parvenu du moins, de femmes dont les œuvres ont été... Il y a eu une appropriation par des hommes d'œuvres qui avaient été composées initialement par des femmes.
Je pense que ça se faisait beaucoup en littérature. Après, appropriation aussi, on cachait notre nom. Enfin, les femmes changeaient de nom. Je pense à George Sand. Voilà. Mais il y en a eu plein d'autres. Il y a toutes les artistes aussi de la sculpture. Camille Claudel, notamment, voilà, qui a eu une histoire assez tragique. Il y a beaucoup de femmes dans l'histoire qui ont eu des histoires compliquées. En peinture, elle n'a pas caché son nom, mais Artemisia Gentileschi, qui était une peintre absolument incroyable, qui a subi un viol de la part d'un de ses maîtres, qui a été soumise à la question, qui a eu les doigts défoncée par la torture. Elle a fini par être, je crois, innocentée, mais ça a été au terme d'un procès absolument terrible, et elle a pu continuer à peindre. Et d'ailleurs, on regarde ces tableaux, c'est la figure de Judith tuant Holoferne, c'est son agresseur qu'elle a peint. Artemisia Gentileschi, sacré peintre, hein. Et puis les couleurs sont magnifiques, mais elle a eu quelque part de la chance, parce que aussi son père était peintre, mais à l'époque, les femmes étaient interdites, par exemple, de faire du modèle vivant. Comment peindre à l'époque des gens si on ne connaissait pas les contours de leur corps? C'était interdit, on ne pouvait pas. Elle s'en est un peu affranchie, mais voilà, difficilement. Nous, dans les compositrices, il y a Barbara Strozzi aussi, qui était fille de Giulio Strozzi, qui était un poète, et qui l'a vraiment aidé à s'introduire en société. Mais c'est vrai qu'il y a... J'ai pas mal d'exemples, mais plus tardifs, qui me viennent de rapports, espèce de couple, sans forcément que ce soit un couple, mais homme-femme,
Mendelssohn,
famille, Schumann, même les Mozart. Et il avait une sœur, Mozart, et qui était, je pense, tout aussi, je sais pas comment dire, douée et bonne instrumentiste que lui. Et puis bon, voilà, qui par la force des choses, par comment fonctionnait la société, le monde à cette époque-là, n'a pas eu la carrière de son frère, en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, après, je pense pas qu'il y ait eu d'appropriation forcément dans ces cas-là, mais en tout cas, on voit à plusieurs endroits, dans plusieurs cas, qu'il y a quelque chose de moindre du côté féminin, en tout cas dans la renommée, dans la postérité, etc. Mais en même temps, bon, est-ce qu'on aurait connu Fanny Mendelssohn? Peut-être qu'on n'aurait jamais encore moins entendu parler de ces femmes-là si leur mari, frère, père avait été connu, je sais pas très bien. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ont été érigées au titre d'emblème, d'une musique, de presque quelque chose de l'ordre, parfois du totem, quoi. Exactement. Et que c'est souvent des hommes, mais enfin, je sais pas comment dire, des fois c'est même pas ce qu'ils ont fait, c'est ce que la société aussi en a fait, et le fait de continuer à en parler, le fait de les mettre eux au devant, ça a contribué à créer ces espèces de figures incroyables.
Bah, comme Bach, hein. C'est comme une marque de Chanel ou Vuitton, en fait, il y a des faux sacs Vuitton et des faux sacs Chanel, mais en fait ça marche quand même, et pour Bach c'est pareil. Et je reviens à ce que tu disais, Bach, il y avait Anna Magdalena. Et pareil, il y a plein de trucs qui ont été attribués à Jean-Johann Sébastien Bach, mais qui étaient d'elle. En fait, c'est assez flou, les frontières entre Clara et Robert Schumann, c'est pareil. Enfin, c'est des histoires assez complexes, qui sont pas hyper bien relatées non plus par les historiens.
Tout ça pour dire qu'il y a aussi quelque chose, du fonctionnement de la société qui fait qu'à aucun moment on ne laisse une chance, une possibilité à une femme de briller autant qu'un homme. Donc l'homme, il bénéficie de cette lumière qui est mise sur lui, mais des fois de par la société, et en fait, il y a quelque chose aussi peut-être à changer, et de base à mettre en valeur, en effet, plus de choses créées.
Plus d'équité, en fait, tout simplement.
Oui, voilà, puisque... Mais dans les faits, il y a sûrement beaucoup moins de pièces écrites par les femmes parce que juste elles n'avaient pas la possibilité. Enfin, je veux dire, on peut pas non plus prétendre qu'il y a un monde entier caché, parce que c'est pas vraiment vrai, quoi. Il y a quand même, de par les choses et comme ça fonctionnait à ces époques-là, il y a pas, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que pour ce qu'il y avait, pour ce qui existait, ce qui avait le mérite d'exister, on pourrait en faire un peu plus parfois.
On va clôturer cet entretien juste en parlant un peu plus actualité du coup et les prochaines dates que vous allez avoir durant les mois à venir.
On a plusieurs dates. On reste en France cet été. Des fois, on se promène un peu en Europe, mais là, on va rester en France. Je sais qu'on joue au Festival de la Chaise Dieu. Je sais qu'on joue au Festival de Sablé. Tout ça, c'est en août, fin août. On joue également à Userche. On joue au Festival Tarentaise. On joue en Belgique fin juillet, à Bruxelles, il me semble. Donc on...
Au Mont Blanc, Festival du Mont Blanc.
On joue tout à fait juste à côté du Mont Blanc, dans l'église de Domancy. Donc voilà, donc on se promène pas mal. En effet, on fait souvent un peu les quatre coins de la France l'été. Mais ça fait plein d'occasions de nous voir. Et donc on y joue en plus nos trois programmes actuels. Donc les Brunettes, qu'on fait ce week-end là, dans la cadre du Festival de Chaillol. On fait Kefaitu, qui est le premier programme de l'ensemble autour des Villanelles de Katzberger, donc un programme plus italien, qui fonctionne un peu comme les Brunettes, c'est un peu le même principe. C'est des chansons assez courtes, avec une même mélodie et un texte qui change. Et aussi, donc, ce programme autour des compositrices italiennes, qu'on a appelé les Données, qu'on aura l'occasion de jouer plusieurs fois, d'ailleurs, cet été. Donc, voilà.
On a un site internet lescapsbergirls.com sans espace après sans espace avant girls, voilà, et il y a un agenda dessus et il est beaucoup plus fiable que nous.
À suivre sur notre site en effet pour plus de...
Eh bien merci à toutes les trois pour nous avoir accordé cet entretien.
Se préparer mille remords, mais ne sont pas servir alors qu'on est jolie, c'est se préparer.